MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Imo.
Eh bien les amis, merci d'être avec nous. On est toujours ici en direct, édition 2025 du MIPIM 10h43. Vous êtes sur Radio Imo. Merci de passer cette journée avec nous. Voilà, une journée qui commence sur des chapeaux de roue. On vous a dit qu'on rencontrerait des acteurs de premier plan, c'est le cas. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, il me semble que c'est la première fois que je l'interview, c'est Mathieu Maillère. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour Sylvain, effectivement, c'est la première fois.
Voilà, directeur général délégué pour Altarea Promotion. Alors, je ne peux pas m'empêcher de poser la question. Depuis maintenant 3 ans, on vit dans un marasme sans précédent. On a la même l'impression qu'on a mis le logement un petit peu au rancard dans la promotion immobilière. Pour être très clair, le marché s'est divisé par deux, quasiment. On voit que certains players, malheureusement, il ne faut pas s'en réjouir, sont pas bien ou même ont disparu. D'autres se sont adaptés. Et on voit qu'Altarea, votre groupe, a su non seulement bien, très bien résister, mais on voit bien que la politique prudentielle de gestion assez saine, prônée par votre fondateur, Alain Tarabella, et toutes ses équipes, bien évidemment, vous ont permis finalement d'être un peu contracyclique. C'est l'impression qu'on a quand on voit vos résultats. Alors, bien sûr, je pense que vous partagez mon point de vue, c'est très clair, mais si je vous demandais, Mathieu, de nous faire un petit peu le point sur le marché, vous diriez quoi aujourd'hui?
Effectivement, comme vous le disiez, Sylvain, marché divisé par deux sur le logement. Donc on ne va pas dire qu'on vit chez Altarea les meilleures années qu'on ait connues, évidemment. Après, je dirais qu'on a peut-être anticipé davantage la fin d'un cycle. Fin 2022, Alain Tarabella nous disait « Winter is coming ». Donc on a mis pied, on va essayer de parler un petit peu anglais. Et j'ai l'impression que c'était assez anticipé en se disant « Finalement, chaque mois qui va passer, les taux vont monter et les prix vont finalement mécaniquement baisser. » Donc il vaut mieux à un moment donné décider de baisser les prix des logements et d'acter cette situation pour pouvoir demain reconstruire un autre cycle. Donc ça a été une décision qui a été difficile sur le moment. On a toujours été habitué à maintenir nos prix de vente, etc. Et donc il a fallu aussi qu'il y ait une prise de conscience chez nous pour passer ce nouveau cap. Et puis assez vite derrière, on a pris aussi des décisions qui étaient, on va déjà écouler évidemment notre stock de logements plutôt que de relancer des programmes et de continuer à développer. Donc c'était une première étape. On appure le cycle passé avant de reconstruire un nouveau cycle. Et puis après, assez vite, mi-23, on a décidé de remettre les fondamentaux en place sur la conception.
Repartir aussi sur des opérations, voilà. Alors, oula, on a un peu d'écho là. Je vais demander à l'équipe de nous réduire un tout petit peu la portée du son. Oui, pardon, excusez-moi.
Pas de souci. Alors, la réflexion, ça a été de repartir finalement du client. On a été pendant des années finalement à l'écoute d'injonctions qui étaient extérieures, notamment des élus. Et c'est normal, sur leur territoire, ils ont des ambitions. Et notamment les grandes surfaces des logements.
On nous demandait... Parce que vous auriez pu aussi avoir la crainte de voir s'épuiser la totalité de votre stock et puis finalement de repartir avec peu d'opérations dans le tube. Hein.
On avait encore un portefeuille qui était quand même conséquent, qu'on a retravaillé, etc., sur lequel il y a eu des renégociations, des discussions avec les collectivités pour revoir la programmation. Et c'est notamment celui-ci. C'est en repartant du client, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, une famille en France, un ménage, c'est 2,1 personnes versus 3,1 il y a 40 ans à peu près. Et quand on a des élus, des aménageurs qui nous demandent majoritairement des 4 pièces et des 5 pièces, on avait du mal à se faire entendre et pour obtenir des permis, à un moment donné, on a été accepté de faire des logements auxquels on ne croyait pas forcément. Et donc, après cette crise, finalement, je dirais que la prise de conscience des promoteurs, c'est qu'on doit faire ce que veulent les clients, ce qu'ils peuvent se payer, tout simplement. Et on l'a fait l'année dernière, on a lancé notre offre Access, je vous ai certainement dû entendre parler, qui est à destination des primo-accédants et qui leur permet, bon an, mal an, d'être propriétaire pour l'équivalent d'un loyer en termes de mensualité. Et c'est une offre qui a cartonné. On a des scores, des taux d'écoulement qui sont sur cette offre-là géniaux.
Qui pourrait ne pas être insensible à ça? Vous leur dites, voilà, au lieu de payer à fond perdu un loyer, 1000 balles, 1 200 euros, peu importe, vous capitalisez parce que c'est un crédit inversé, donc autant emprunter. En plus, on va vous aider, vous avez fait des gros efforts, mais soyons clairs, c'est aussi la taille de votre structure qui a permis de mobiliser toute cette énergie, il faut être très clair.
Exactement, on est une société.
Aujourd'hui, vous êtes un player.
On a pris des positions effectivement qui étaient importantes pour accompagner ces primo-accédants. Alors, au-delà du prêt à taux zéro, qui est quand même un outil puissant, et on le sait tous, aujourd'hui, il va être déployé sur l'ensemble du territoire. Ouais. Exactement. Donc, on compte évidemment sur le prêt à taux zéro, mais pas seulement. On a été aussi permettre à ce que des personnes qui n'aient pas d'apport n'ait pas besoin d'en avoir pour devenir propriétaire. Donc on prend notre part aussi dans ce processus et on a aussi négocié des partenariats avec des banques pour réussir à permettre à des personnes qui gagnent le SMIC à peu près ou un petit peu plus que le SMIC de devenir propriétaire, qui est quand même la volonté principale d'un Français aujourd'hui.
Mais c'est, contrairement à ce qu'on peut imaginer, le droit de propriété est sacré en France, d'ailleurs c'est la France qui l'a invité, et 87% des Français le plébiscitent, vous êtes d'accord là-dessus?
Exactement, et puis on a mené une enquête avec OpinionWay en fin d'année dernière, près de 2500 locataires, plutôt sur des revenus moyens, et 80% rêvent de devenir propriétaire. Après, il y a une sorte d'autocensure. La plupart ne connaissent à la fois pas les mécanismes de financement du logement, et puis ils pensent qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes devenir propriétaires, plus de la moitié. Se disent « je ne peux pas devenir propriétaire ».
C'est fort ce que vous dites. Vous dites autocensure.
Oui, il y a une autocensure.
Les gens s'interdisent l'idée, c'est presque inaboutissable comme rêve.
C'est ça.
Inaccessible.
Il y a ce sentiment-là de répétition, de se dire « c'est très compliqué, les prix ont monté, les taux ont monté, même s'ils ont baissé dernièrement ».
Vous avez fait un sondage là-dessus?
On a fait un sondage, ouais. 2500 locataires qui ont été étudiés, donc c'est hyper révélateur. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils sont prêts à faire des efforts, notamment avoir une surface peut-être un peu moins grande que ce qu'ils auraient espéré dans leur rêve pour devenir propriétaire. Une approche donc assez pragmatique finalement. Et puis, quand on travaille sur ces axes-là, on s'aperçoit que finalement, même en termes de mensualité aujourd'hui, parce que finalement, c'est un petit peu comme les voitures. Aujourd'hui, les personnes achètent en leasing et regardent finalement plus le loyer. Bah, quand on fait un emprunt, aujourd'hui, on regarde par exemple sur une mensualité de 1 000 euros. Si on n'a pas de prêt à taux zéro, on peut emprunter à peu près 190 000 euros aujourd'hui. Si on a un prêt à taux zéro, on peut emprunter 250 000 euros. Sauf que le prêt à taux zéro, il est très peu connu de la plupart des ménages. Donc il y a une vraie pédagogie à faire.
Et surtout que les banques ont tardé à le mettre en place, mais ça y est, c'est fait.
Ça y est, c'est fait.
À le remettre en place, oui, à partir du 1er avril, exactement, ça va être le cas. Donc on peut voir. Mais effectivement, vous êtes dans la partie promotion uniquement sur des classes d'actifs résidentielles.
Oui, exactement.
Ouais. Vous ne faites que du rien. Donc aujourd'hui, vous avez un vrai savoir-faire.
Après, dans des programmes mixtes, on fait évidemment bien sûr, bureau, du commerce, etc. Mais le cœur du métier, c'est effectivement le logement.
Là, tout à l'heure, on va recevoir la ministre du Logement, on va recevoir des collectivités locales, les maires de ville, on va rentrer en campagne, etc. Bon, je ne vais pas vous la refaire. 2025 va commencer à se préparer pour les élections. On sait qu'à partir d'avril, mai, ça va commencer à bouger. 2026, on a l'échéance électorale pour les collectivités locales. On sait que, grosso modo, quelques mois avant, il n'y a plus rien qui signe.
Oui, peut-être même un peu plus que quelques mois.
Voilà. Ouais, vous êtes... voilà. Ensuite, on prend la main sur la collectivité, puis on se dit que pendant un an, on regarde un peu ce qui se passe, et puis après, on décide d'agir.
Oui.
Donc là, on est reparti dans un cycle pas drôle, Mathieu.
Je pense qu'il faut essayer de faire la part des choses. Il y a des collectivités, effectivement, qui sont déjà dans cette...
Mais c'est quoi votre analyse aujourd'hui? Vous vous dites, OK, bon, on va dérouiller un peu encore pendant un an, ça va être compliqué, est-ce qu'il y aura un attentisme? Quel est votre point de vue?
Ouais, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, on a les arguments pour convaincre les élus, même ceux qui aujourd'hui sont réticents à l'acte de construire, finalement, à partir du moment où on leur parle de leur population. Pendant un moment, on a parlé de prix au mètre carré, d'analyse concurrentielle. Et quand on vient faire une étude, et on le fait aujourd'hui de manière très anticipée, dès les prospections, de la démographie, de sur mon territoire, combien gagne un ménage, etc. Quel est son besoin en logement, qu'est-ce qu'il peut s'acheter. Et on vient présenter un élu, finalement, cette étude en lui disant aujourd'hui, sur votre commune, le ménage moyen, c'est 2 personnes, le revenu moyen, c'est 30 000 euros. Et donc, on peut financer un logement pour ces personnes-là à hauteur de temps. Mmh. On leur dit, est-ce que aujourd'hui, vous êtes prêts, malgré le contexte électoral, à permettre à vos habitants de devenir propriétaires de leur logement, ce qui est leur aspiration quand même essentielle. Moi, je suis assez convaincu sur le fait de dire qu'on peut quand même les embarquer, même si, a priori, ils n'étaient pas favorables.
Donc, il y a encore des maires qui bâtissent. D'ailleurs, les maires, oui, aujourd'hui, sont globalement tous bâtisseurs, il faut le dire. Mais il faut aussi également dire que construire n'est pas anodin. Il faut aussi aménager les structures publiques. Il faut un nombre de places en crèche, par exemple, ou à l'école un peu plus élevé. Et qu'aujourd'hui, quand on voit les difficultés qu'ont les maires pour agir, ça ne va pas être simple. Est-ce qu'ils partagent cette expérience avec vous aussi?
Alors, le rôle de maire, il est évidemment compliqué.
Est-ce qu'ils partagent ces difficultés en disant, bon, vous avez raison, on devrait travailler sur de la requalification urbaine, sur de la régénération, mais moi, je suis ennuyé parce que je n'ai pas de marge de manœuvre fiscale, budgétaires, etc. Tout ça, ce sont des sujets qui impactent votre activité.
Alors, les maires ne nous partagent pas forcément en direct, mais on sait qu'évidemment, oui, ils ont de leur population des attentes, effectivement, en termes d'équipement public, et ça, c'est naturel. Mais il y a aussi, parfois, il faut le dire, des attentes aussi qui est rien qui se passe dans la commune à côté de chez soi. Pareil, hein, c'est un peu caricatural, mais on veut du logement pour ses enfants, mais par contre, il ne faut pas qu'il y ait un immeuble qui se construise à côté de chez soi. Et les maires, quelque part, même s'ils sont motivés eux-mêmes, malgré tout, ils sont quand même intéressés à leur réélection.
Ce phénomène de rejet de la grue d'en face, il est toujours pertinent aujourd'hui ? Est-ce que tout ce que vous avez fait, vous savez, vous faites beaucoup de concertations, vous savez, sur vos projets, vous impliquez, est-ce que ça a réduit les recours ? Est-ce que ça a permis d'atténuer le manque d'acceptation de la construction ? Est-ce que aujourd'hui aussi, également, les nouveaux modes constructifs que vous mettez en place, que vous êtes assez innovant chez Altaria, permettent de réduire... Est-ce que ces impacts-là, vous êtes capable de les mesurer aujourd'hui ?
C'est très variable, il n'y a pas de réalité. Il y a des dossiers sur lesquels on se dit on n'aura pas de recours, on a fait une belle concertation, le projet, il est vraiment exemplaire et on a un recours. Et d'autres où finalement, on se dit, bon, là, on est sûr d'avoir un recours, il n'y en a pas. Donc, bon, il faut les faire de toute façon. C'est important de partager aussi notre façon de voir les choses, la qualité des projets qu'on amène. Pour autant, ce n'est pas une assurance, le fait de ne pas avoir un recours.
Alors, le recours, c'était un fléau, hein, il faut quand même le dire, hein, qui était même abusif, on peut le dire. Ouais. Est-ce que, alors justement, depuis Julien Denormandie, vous savez qu'il avait retravaillé de manière un peu plus musclée le recours abusif, justement, qui a été un vrai sujet. Est-ce que vous observez également que maintenant, vous avez plus de fluidité de ce point de vue-là ? Alors, je vais rajouter également, est-ce qu'aujourd'hui, vous essayez également de construire plus haut ?
Alors, on essaye, on n'y arrive pas forcément, puisqu'on sait que dans les PLU, souvent...
Vous avez compris, Lausanne...
Exactement, c'est l'objectif principal. Pour éviter de s'étaler, on va intensifier la ville. Sauf que souvent, on nous demande de construire un étage, deux étages de moins que le PLU. Ce n'est pas systématique, mais ça arrive quand même assez régulièrement.
C'est clair.
Donc, c'est une sous-consommation du foncier, et qui a aussi pour effet d'enchérir, évidemment, le logement. Donc voilà. Après, sur le fait que les recours abusifs soient sanctionnés, malheureusement, aujourd'hui, les sanctions financières, elles ne sont pas à la hauteur. Il n'y a pas suffisamment de jurisprudence pour dissuader des personnes.
Est-ce que vous avez déjà constaté une réduction des recours abusifs ou pas du tout ?
Non, je dirais qu'il n'y en a pas vraiment. C'est pas assez. À un moment donné, les sanctions ne sont pas assez fortes. Par contre, ce qu'on constate, c'est malgré tout que les recours sont traités plus vite. Et donc ça, c'est important.
Très bien. Oui, d'accord. Ok. Vous sentez que ça bouge.
Tendu en tout cas. Voilà. Et puis ça part directement au Conseil d'État. Il n'y a pas d'appel. Donc ça permet quand même d'accélérer le processus. C'est encore trop long, évidemment, à notre sens, parce qu'il faut tenir le foncier pendant ce temps-là. Il peut se passer plein de choses, le temps de la procédure, mais il y a quand même une amélioration, il faut le reconnaître.
Dernière question, comment vous portez-vous chez Altaria Promotion ?
Je dirais qu'on a la force d'un groupe qui a une assise financière qui est importante, qui est multi-activité, donc avec des activités qui sont complémentaires.
Donc, résistant.
Donc on est résistant, on est résilient, on prend notre destin en main, on n'attend pas qu'il y ait des solutions qui nous arrivent tout droit dans la bouche. On prend notre destin en main. Et comme on le disait, on va faire de la pédagogie pour essayer de convaincre notamment les élus, les aménageurs, que finalement personne ne connaît mieux un client que le promoteur qui construit un programme. Son intérêt, c'est de réussir à le vendre.
Est-ce qu'on peut toujours acheter ?
On peut acheter et on peut acheter même
aujourd'hui. On a du stock, on va sur votre site internet.
Bien sûr, et on va lancer cette année à peu près 50% de logements en plus que l'année dernière. Donc on relance une vraie dynamique parce qu'on croit aux produits qu'on développe aujourd'hui et qui sont des produits qui sont adaptés au budget des ménages dans ce contexte actuel. Donc on est raisonnablement optimiste parce que...
J'aime beaucoup le...
Parce qu'on a pris des décisions.
Vous devriez faire de la politique. Raisonnablement optimiste, j'aime beaucoup. Effectivement, la solidité aussi, bien évidemment, de votre groupe. Pour quand même rappeler, les amis, que vous êtes un acteur majeur dans le paysage français. Vous pouvez vous connecter, bien sûr, sur le site internet où on a toutes les informations. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Mathieu Maillère, je rappelle que vous êtes directeur général délégué pour Altaria Promotion. Il faut venir nous voir plus souvent pour partager votre analyse. On est toujours ici en direct, il est pratiquement 10h57. On va recevoir pas mal d'élus là en fin de matinée et ensuite on va redémarrer tout cet après-midi, toujours avec des acteurs de l'immobilier de premier plan. Mathieu, on vous souhaite un excellent MIPIM. On se retrouve tout de suite après.
MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Immo.